évidemment, qui n'est pas sans référence au groupe Magma que j'ai connu à ses tout débuts, hein, comme je disais à Laurent qui jouait avec Klaus Blasquiz au chant, Faton Kaen, etc., etc., et qui ont commencé à jouer dans les lycées et puis dans les bâtiments en construction. Je me souviens d'un concert notamment dans la Fnac Montparnasse quand elle était en construction. Et puis après, bon, quand ils sont devenus célèbres, ça a commencé avec la fête de l'Huma, etc., etc. Donc voilà, ce groupe est une référence directe à Magma, mais sans que ce soit une copie, c'est juste plutôt une évocation avec évidemment une invitation au voyage. Voilà, c'est comme ça que je voulais vous présenter les choses. Donc j'espère que nous allons bientôt recevoir dans la deuxième partie qui va arriver incessamment sous peu Adrien Moignard et Diego Humbert. Et en attendant, nous allons écouter un ancien album que j'avais beaucoup aimé de ces mêmes musiciens, qui remonte à 3 ans, puisque ça avait été, je crois, sorti en 2020, si mes souvenirs sont bons. En 2021, pardon. Donc ça juste 2 ans, et c'était le Adrien Moignard Trio avec Diego Humbert, qui est donc toujours à la contrebasse, et André Ceccarelli à la batterie. Le titre de l'album, qui était donc sorti le 28 mai 2021, s'appelait Bright Up, et qui était un très très bon album. Voilà, donc nous allons commencer par le premier titre que Adrien Moignard a signé, qui s'appelle Bright Up. Voilà, j'espère que Free Humanzo vous a conquis. J'en ferai la promo sur ma page Facebook avec l'ensemble des informations, y compris leur adresse mail, y compris leur site internet, etc., etc. Voilà, et je remettrai l'ensemble de la playlist avec la photo des albums, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Liberté. Alors, nous sommes ravis. Nos invités sont arrivés pile à l'heure, hein, ce qui est normal pour des musiciens. D'être dans le tempo, ce serait quand même le minimum. Donc, merci de votre présence, Adrien et Diego. Alors, Diego, bon, c'est un habitué des studios, hein, presque son rond de serviette, on va dire. Donc, merci d'être venu pour nous parler du dernier album. Alors, je vais faire une petite introduction un peu longue. Alors, si juste quand même, on vient juste d'écouter, je vous rappelle, le disque qui est sorti, qu'on avait déjà passé à Radio Libertaire, d'Adrien Moignard en trio avec André Sicarelli à la batterie, et qui s'appelle Bright Up. Donc, je vais faire une petite introduction. Quand j'ai reçu le disque Django Song, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Enfin, j'étais complètement dans le potin, j'avoue. Et puis, en fait, est arrivé les 70 ans de la disparition de Django Reinhardt, donc je me suis dit, bah oui, effectivement, ça tombe à pic, pas complètement. Donc j'étais vraiment à l'ouest. Et donc, ma dernière émission, la dernière partie était en hommage à Django, mais sur les derniers enregistrements de Django qu'il a fait avec Maurice Vander et Martial Solal, qui commençaient à changer complètement. Alors je dois aussi vous avouer, mais bon, ça c'est très personnel, que j'étais toujours très très méfiant par rapport au jazz dit manouche d'une certaine manière, alors que j'ai une grande grande admiration pour Django. Et quand j'ai écouté votre disque là, tous les deux, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vraiment très 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 bien. Donc je vais vous laisser parler maintenant tous les deux. Est-ce que c'était un effet d'aubaine ou c'était lié à l'actualité des 70 ans ou bon voilà, dites-moi tout, qui commence? Je vous laisse maintenant entièrement la parole.
Bonsoir. Vas-y, bonsoir. Elle n'était pas si longue cette introduction, ça va. c'est un mélange de plein de choses en fait. Avec Diego, ça fait un moment qu'on joue ensemble. On a eu l'occasion de jouer pas mal avec Didier Lecoud en trio. À d'autres occasions avec Django Drome à l'époque, tout ça, maintenant avec Richard Galliano. Donc on a toujours eu derrière la tête l'idée de jouer en duo, ne serait-ce que pour faire peut-être juste des concerts. Et l'idée d'un enregistrement aussi nous a toujours trotté quelque part dans la tête. Ensuite, Max Robin, qui donc est directeur artistique du label West, nous a suggéré, pour les 70 ans de la mort de Django, de faire un album en duo en hommage à Django. Donc ça nous a tout de suite botté. Mmh. Et on a commencé à cogiter sur le projet.
Donc ça, c'était l'année dernière, et donc c'était timé pour que ça sorte justement pour l'anniversaire des 70 ans de disparition de Django.
Donc c'est moi qui étais bien dans le potage le plus complet.
On regarde pas forcément son calendrier en disant, tiens, l'année prochaine, c'est les 25 ans de ça, les 30 ans de ça.
Oui, oui. Non, mais j'ai eu quelques petits soucis perso de santé. Enfin bon, donc j'étais un peu en dehors du monde pendant quelques mois. Là.
Et le Label West ont sorti l'intégrale des enregistrements de Django.
Oui.
Donc ils sont très au fait du timing et de l'actualité de Django. Donc ils avaient, je pense, cette date en ligne de mire depuis quelques temps. Parce qu'ils ont sorti beaucoup de disques et une compile avec beaucoup d'artistes en hommage à Django.
Alors en plus, ce que je trouve à la fois génial et gonflé, c'est le fait de l'avoir fait à la guitare acoustique. Deux, trois questions. Est-ce que c'est une acoustique pure ou électro-acoustique?
Ah non, acoustique pure. Elle a un système d'ailleurs d'amplification qui ne marche pas à l'intérieur. C'est vrai. Non, c'est une guitare Maurice Dupont, corde nylon. Donc ça, c'est vrai que c'est peu fréquent dans ce style. Moi, j'avais envie de changer un petit peu de son, de rendre hommage à Django un petit peu à ma manière, sans forcément essayer d'avoir des similitudes avec lui au niveau du son. C'était plus adapté au duo. Je trouve que ça se marie très bien avec la contrebasse, la corde nylon. C'était pour moi une nouvelle aventure aussi, parce que j'en ai jamais eu de guitare corde nylon. J'en ai emprunté quelques fois, mais là, c'est David Reinhardt, le petit-fils de Django, qui me l'a prêté pour l'enregistrement. Donc voilà, une petite fraîcheur nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ce soit le son qui m'inspire de par le fait de pas trop y être habitué.
Oui, puis... Enfin, c'est toujours un peu... enfin, je ne sais pas comment vous ressentez ça tous les deux, mais c'est un peu compliqué de mettre les pas, ses pas dans les traces d'un géant comme ça. Quoi.
Ah bah c'est sûr, oui, oui. Après, moi, je trouve ça très bien d'essayer d'apprendre tout ce que Django a fait sur la guitare. Je trouve qu'on peut en tirer que des bonnes choses. L'essentiel, c'est de réussir à comprendre, à essayer de comprendre et à essayer d'intégrer son vocabulaire pour essayer de créer le sien. Mais en tout cas, copier Django à la maison, moi je trouve que c'est pas du tout interdit.
Non. mais à la maison.
À la maison, c'est bien. Ouais. De toute façon, après, avec le son des enregistrements de Django et tout, on aura beau essayer, et puis bon, plein d'autres éléments, il y a une telle spontanéité que c'est bien à étudier, mais pas à essayer de reproduire.
Oui, voilà, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai toujours un peu de réticence. Et là, justement, je trouve que c'est à la fois très frais. On n'est pas du tout dans la copie ou dans l'imitation, déjà par le son, par le format. C'est juste un duo. Il n'y a pas de guitare rythmique derrière. Mm-hmm. Donc, c'est une prise de risque, enfin, entre guillemets, hein. C'est pas le Liban, quoi. ça apporte quelque chose de... Ouais, enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On va d'ailleurs en écouter des larges extraits. Et justement, je trouvais que la guitare acoustique, comme ça, donnait un plus, vraiment une... Ouais, c'est comme si on joue du Monk en imitant Monk, c'est vraiment pas la bonne idée. Quoi.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, on a fait plusieurs essais. Moi, il y avait deux guitares au studio. Il y avait une guitare folk aussi, une guitare nylon. La guitare électrique, j'y avais un petit peu pensé, mais je me suis dit en duo, ça va vite être...
T'es venu avec plusieurs guitares au studio, mais finalement, ouais, t'as gardé que le...
Ouais. Faut dire qu'elle était vraiment bien, cette guitare aussi. Hein. Ça joue. Ouais, super guitare. Mais ça s'est goupillé comme ça, et je trouve qu'il fallait aussi garder la même guitare, à mon sens, de A à Z, pour rester dans le même voyage. Parce que moi, j'ai fait des disques avec plusieurs guitares dans le passé, et je l'ai un peu regretté après.
Ah bon? Aussi.
Ouais. Enfin, regretté, non, parce que c'était le contexte qui voulait ça, mais je trouve que là, ce qui est bien, c'est de rester tout le temps dans la même veine, dans la même esthétique, dans la même couleur, de son, de jeu, de tout ça. C'était notre façon à nous de lui rendre hommage, je crois.
Se donner des contraintes de création, c'est...
une des contraintes, c'était de faire que des morceaux de Django.
Oui.
Et pas des standards que Django avait joués, mais que des compositions de Django. Donc ça, c'était déjà un premier contrainte, qui n'est pas vraiment une contrainte, mais en tout cas un premier paramètre. Et après, le fait de le jouer en duo et de... le jouer comme nous on le joue, et surtout pas de faire l'imitation, évidemment.
Parce que ça a été très spontané, hein, la façon qu'on a de jouer sur ce disque, en fait. Ça a été très naturel. Je veux dire, on n'a pas non plus cogité pendant des mois à se voir à 5 heures par jour pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait faire en sorte que ça sonne bien. Vu qu'on se connaît bien, vu que le son était super, vu que la vibe était très bien et que ça s'est sorti assez naturellement, tout ça, en fait.
Ouais, mais c'est comme ça que c'est... Ça s'entend en même temps. Vous avez répété beaucoup, du coup ? Non ?
Vas-y, réponds-toi.
Non. J'ai pas à souvenir de répétition, en fait.
Non.
On discutait un peu des morceaux, mais l'avantage en plus qu'on avait, c'est qu'on était dans un beau studio, une très belle cabine avec une très belle acoustique, sans casque.
Ah oui.
Toi, t'avais un peu de casque pour avoir la réverb, mais juste sur une oreille. Et moi, j'étais complètement. Donc, c'est comme à la maison. Donc, bon, on n'a pas répété plus que ça. Hein. Enfin, pas vraiment.
Ça y fait beaucoup.
Les morceaux, on les connaît. On les connaît parce qu'on les a joués dans différents contextes auparavant. Pas tous. Certains que moi, je connaissais pas. Enfin, que j'avais jamais joué. Mais. C'est très spontané comme interprétation.
Et justement, moi, ce que j'ai... Finalement, cet hommage à Django, elle va complètement dans la continuité de l'hommage que j'ai fait dans mon dernière émission, où j'ai pris les derniers enregistrements, où on sentait qu'il avait intégré et aimé ce qui était en train de se passer avec le bebop, avec Parker... Alors évidemment, on ne sait pas s'il a écouté Jimmy Raney ou...
Alors, je pense qu'il était au fait quand même de ce qui se passait. Hein. Et puis je pense qu'il y avait plein de gens qui devaient lui amener des disques à l'époque. Hein. C'est début des années 50, c'était plus facile déjà d'écouter de la musique. Moi je suis sûr qu'il a écouté Bah, tous les gars de l'époque. Ah, j'en suis quasiment sûr. Comme... Il était curieux, hein, Django, quand même.
Oui, 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 oui. Comme Tal Farlow, des mecs comme ça, qui jouaient déjà, quand même, à cette époque. Et on sent qu'il était en train de partir vers quelque chose d'autre. Enfin, c'est, bon, on va pas faire de l'Uchronie, savoir ce qu'il aurait donné, mais c'est ça qui
était... Mais après, c'est aussi le son hein, qu'il faisait jouer comme ça. C'est qu'il faut comprendre que Django, avec le quintet, c'était la guitare acoustique. Tout le monde en acoustique, un micro au milieu, en avant, quoi. Donc, à partir du moment où il a pu se mettre fort, déjà, avec l'arrivée du steamer, il a fait beaucoup moins de notes, clairement. Il avait des longueurs de notes bien plus importantes, donc il pouvait beaucoup plus aérer son jeu. Et après, guitare électrique, 53, les sessions dont vous parlez, là, c'est carrément un son énorme, d'ailleurs, ouais, qu'on n'a jamais réentendu depuis. Hein.
C'était hallucinant.
Pourtant, il y en a eu, hein, des guitaristes sur des amplis, mais Django, il a...
Oui, vraiment... je crois qu'il était content d'y aller à fond.
Ah c'est ouais,
ce que disait Grappelli, d'ailleurs.
Ah ouais. On sent vraiment l'émulation qui est aussi liée aux musiciens qui sont avec lui et à ce son de guitare qu'il a enfin. Et on a l'impression qu'il en a rêvé toute sa vie. Enfin, il l'a, ça y est, c'est là.
Exactement.
Et donc, du coup, il est dans les starting blocks sur chaque mesure.
Et moi, c'est justement ce que j'aime bien. Enfin, j'aime Django du début à la fin, mais je trouve que... On a trop retenu disons qu'on a un peu trop occulté la dernière période, justement, qui était une transformation pour ne retenir que le côté, entre guillemets.
Mais c'est parce que, y avait moins d'identité aussi. C'était pas un groupe comme le quintet du Hot Club de France. Mm. Le quintet, c'était toujours les mêmes accompagnateurs, Django, Stéphane, le même bassiste pendant des années. Là, à la fin, à partir des années après la guerre, en fait, il n'avait pas vraiment de groupe fixe. Donc c'est vrai que c'est. Faut plus être fouilleur, tout ça, pour...
Mais quand on écoute la version de Flèche d'or de 47, c'est hallucinant, quoi.
Il est enragé, là,
ouais. Il y a des copeaux dans le parquet, quoi. Enfin, monstrueux.
Ouais, c'est clair.
Bon, on écoute... on va commencer par Tears. Quelques mots sur cette compo.
Je crois qu'il l'a enregistré deux fois. Il l'a enregistré deux fois, avec le quintet, et une fois en duo avec Stéphane Grappelli. Et il y a notamment, dans le disque qu'on a fait avec Diego, une intro que je reprends, qui à la base est une improvisation de Django. Je sais plus la combien, la 4 je crois. Et j'ai pris juste le début pour m'en servir d'intro pour Tears.
Eh bien c'est parti.
Thank you.
Jazz Libre Radio Libertaire avec Adrien Moyard et Diego Imbert dans nos studios. Et je ne dirai pas ce qui se dit hors micro.
Oh bah,
je ne répéterai pas.
Si, mais c'était donc ma contrebasse pliable.
Voilà, alors.
Ma contrebasse charme
de. Il faut que tu expliques. Là maintenant, il faut que tu expliques aux auditeurs ce qu'est une contrebasse pliable. Alors, parce que ça paraît un peu.
Oui, ça paraît un peu saugrenu comme. Alors, c'est une. Après avoir voyagé pendant 20-25 ans avec une contrebasse qui est un instrument qui est plus grand que moi, ceux qui ne me connaissent pas peuvent imaginer quelqu'un d'un mètre 60, 1m65 avec une contrebasse qui fait 1m80, qui est plus large que moi. Donc c'était un peu compliqué et un jour le luthier avec qui je travaillais déjà depuis quelques années a eu l'idée de fabriquer une contrebasse complètement démontable, c'est-à-dire que le manche s'enlève, la tête s'enlève, le corps s'ouvre en deux et comme une boîte de camembert les deux parties du corps s'emboîtent l'une dans l'autre et à l'intérieur on met le manche et tous les accessoires de la contrebasse et on part avec la contrebasse sur le dos. Et donc c'est fantastique parce que ça prend plus de place, on prend aucune amende à la SNCF.
Parce que ça, c'est incroyable ce truc.
C'est quand même incroyable. À l'heure on nous dit de prendre le train pour pas prendre la bagnole, on est obligé de prendre la bagnole des fois. En tout cas, les contrebassistes, des fois, sont obligés de voyager en voiture. Et puis les tarifs de la SNCF aussi, c'est un scandale. Mais bon, ça c'est encore un autre débat.
Je fais une parenthèse, il y a une grande protestation par rapport à ça. Entre les violoncellistes en classique ou aussi, ils sont emmerdés.
Oui, mais il y a encore des gens qui prennent des amendes.
Il y a encore des gens qui prennent des amendes.
Jean-Philippe Viré, il en a pris une, c'est un contrebassiste de jazz, il en a pris une il y a quelques jours.
C'est franchement dégueulasse.
Et le dossier est sur le bureau de la ministre depuis je ne sais pas combien de temps. Et ils ont fait une commission Théodule pour voir les effets, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est complètement aberrant.
Oui, c'est scandaleux. Nous protestons largement, nous, ici, contre cette...
Il y a une pétition en ligne que vous pouvez aller signer, d'ailleurs, si vous êtes...
Il faut la signer, parce que c'est dégueulasse. C'est une atteinte à la création, d'une certaine manière. Bref.
Et donc, sans le vouloir, j'avais anticipé ce désagrément. En faisant l'acquisition de cette contrebasse il y a bientôt 5 ans. Au mois de juin, ça fera 5 ans. Et depuis, je m'en sépare pas parce que le son, on peut penser qu'un instrument démontable a peut-être moins de qualité sonore qu'un instrument non démontable, mais les qualités de son de cet instrument sont formidables et c'est devenu mon instrument numéro 1.
Et ça pèse combien ?
Ça pèse une basse, par contre.
C'est-à-dire ?
C'est une quinzaine de kilos, entre 13 et 15, je crois. Donc, j'ai le dos un peu en vrac, des fois, mais...
Parce que moi, j'avais joué avec un contrebassiste qui avait une contrebasse normale, mais qui était en fibre de carbone. Donc, à part la touche qui était en ébène, ça pesait rien, quoi, quasiment.
D'accord.
Mais bon, ça prenait de la place.
Et ça sonnait bien ?
Ça sonnait pas mal, oui. Mais lui, il était avec une cellule et un petit ampli, mais non, ça sonnait pas mal, curieusement.
Une guitare comme ça aussi, avec des tables en carbone.
Mais il y avait, c'est pas McLaughlin qui jouait avec une Ovation.
Ah, c'est possible, ouais.
Qui était.
Mais derrière.
Derrière, oui.
Ouais, ça c'est toutes les Ovations. Mais là, il est question de table en carbone.
Ah oui, carrément.
Guitare, ouais. Il paraît que c'est très sonore. Je sais pas, moi j'aime bien le bois.
Moi je vois pour avoir un archet en carbone et un archet en bois, il n'y a pas photo. Hein.
C'est vrai ?
Oui, il n'y a pas photo.
Oui, tu préfères le bois.
Ah oui.
Ouais.
C'est vraiment ça vibre un pas impact.
Ah bah c'est le son. En plus, un archet, le bois ou le carbone est un résonateur, donc on entend vraiment une différence de son. Le carbone, on arrive à faire des très bons archets en carbone, mais on n'arrive pas aux archets en bois.
Il y avait d'ailleurs j'avais vu un article avec une pénurie de bois pour la fabrication des archets, justement.
Le Pernambouc, parce qu'il y a un projet de loi visant à interdire le commerce des bois précieux. Et donc, c'est-à-dire que tous les musiciens qui voyagent à travers le monde avec un archet pourraient se faire arrêter à la frontière et se faire confisquer leur archet.
C'est valable aussi pour le palissandre de Rio, ça. Pour les guitares.
Au même titre que l'ivoire, ou c'est le commerce de bois précieux. Mais le Pernambouc, alors, tous les archets sont... Enfin, tous les bons archets sont en Pernambouc.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas interdire le Pernambouc.
Non. Moi, j'ai une basse électroacoustique et le micro, enfin c'est un micro plat qui est dans le sillet. Enfin, j'ai juste fait remplacer par un truc en plastique par de l'os, par un luthier. Mais rien que ça, je suis déjà passible aussi de, de
la prison.
La porte des ombres, oui, court. Juste, je pose toujours la question qui tue, mais enfin, bon, je sais très bien quelle va être votre réponse, et ce serait normal, mais qu'est-ce que ça vous fait de réécouter comme ça votre œuvre?
Ben, moi, en ce moment, je le réécoute beaucoup parce qu'on joue demain au Sunset.
Oui, d'ailleurs, et comme ça, ça me.
Ah bah tu es bienvenu.
Je vais peut-être venir.
Ah bah grand plaisir. Oui, moi j'ai beaucoup écouté depuis qu'on l'a reçu. Je réécoute pas juste après l'avoir enregistré. Il s'est passé un petit bout de temps. On a reçu les mix. Et c'est vrai que le son, on est tous unanimes sur la qualité du son.
Magnifique.
Et là depuis qu'on l'a reçu, bah, je le réécoute. Je prends plaisir à le réécouter pour la musique et en même temps j'ai évidemment cet objectif de demain de réviser les morceaux.
Et est-ce que vous, quand vous réécoutez en disant ah tiens là j'aurais pu faire ça, ouais, ou ça, ouais.
Ouais, mais là franchement sur la version de Tears, moi je suis content. C'est pas toujours le cas. Des fois je me réécoute en me disant j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire ci, faire ça, machin et tout. Je dis pas du tout qu'elle est parfaite, hein, mais je suis content de ce que ça donne dans la globalité et je trouve que s'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, le fait de ne pas les avoir fait différemment, ça marche quand même. Phrase compliquée. Ouais,
mais bon, de toute façon, quand on est dans une création, il y a toujours un moment donné, il faut fixer et puis choisir, c'est renoncer, comme on dit. Hein, donc, bon, on va écouter dans l'ordre. Hein,
D'accord.
On a le temps. Enfin, ça, même si ça passe vite, on a quand même le temps. On va écouter Douce Ambiance. Quelques mots sur le titre.
Douce Ambiance, c'est un morceau que j'ai pas beaucoup joué, moi. Au tout début, quand j'ai appris un petit peu les premiers choristes de Django que j'ai essayé de relever, il y avait Douce Ambiance, mais je sais même pas comment ça nous est venu cette idée. Je crois que je me suis dit tiens, on va faire ça. Et puis voilà, pas grand chose à dire à part que c'est quand même un des premiers morceaux, je pense, dans l'histoire du jazz où il y a des ponts comme ça. Il y a un pont avec juste un accord mineur qui monte d'un demi-ton et encore d'un demi-ton. Et je pense qu'à cette époque-là, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais je pense qu'à cette époque-là, il y avait pas beaucoup ça dans la musique. Et que c'était encore un des trucs précurseurs, un des côtés précurseurs de Django.
Eh bien, c'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Donc, je vous recommande hautement ce Django Songs. Alors, quand même très important, concert de sortie de l'album demain.
Tout à fait.
Tout à fait.
Pour la Saint-Yves, au Sunset.
Tout à exactement, fait, à 20h30, je crois.
L'heure, je ne sais pas, oui.
20h. Ouais. Venez pour
20h30, 21h. De toute façon, il y a une terrasse.
Ouais. Il va faire beau.
Il va faire beau, il y aura de l'ambiance.
Quoi qu'en plus, c'est quand même le week-end de l'Ascension, donc...
On verra bien.
On va voir les Parisiens.
Il y a déjà pas mal de réservations, ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Et aujourd'hui, dans la rue, c'était plein.
Ah oui. Alors moi, par contre, sur le périph', ça roulait très bien.
Pareil.
Première fois que...
Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Oui, alors j'en viens quand même sur le son, parce que moi qui suis... je fais partie de la secte des audiophiles, où je construisais des amplis, tout ça, des machins. Bon. J'étais toujours très, attaché à la qualité du son. Après, on peut aussi écouter les enregistrements d'Yves Benedetti et de Parker, qui sont absolument dégueulasses, mais ça vaut comme témoignage, donc il ne faut pas non plus être... Mais là, j'étais... complètement bluffé. C'est pour ça que au début, j'étais un peu surpris en me disant, est-ce que c'est vraiment une électroacoustique? Et là, si vous me dites tous les deux que c'était juste avec un micro devant,
Ouais, plus d'un micro devant chaque instrument, mais oui, c'est vraiment de l'authentique, 100%. Il n'y a pas d'ampli,
pas de cellule. Pas d'ampli.
Non, c'est que...
Que des micros.
Il a fait un super boulot.
Et est-ce qu'il y avait des micros sur manche?
Non.
Voilà,
Non, ça c'est intéressant, hein. C'est vrai, parce qu'on entend les doigts du coup.
Mais oui.
Ouais. Mais Tenny fait ça beaucoup.
Mais exactement, mais ouais. Moi ça me gêne au bout d'un moment, je trouve que c'est...
Ça dépend des morceaux, je trouve.
Non, mais c'est-à-dire que... Enfin, oui, je suis d'accord, mais je trouve que c'est trop. Mm-hmm. Il y a un moment donné...
On parle de Metheny en général, là, non?
Non.
Non, mais c'est comme l'esthétique de certains guitaristes de... vouloir qu'il y ait beaucoup de médiators qui sortent des doigts, en fait, pour qu'on entende le bruit du médiator. C'est un truc qui peut marcher, qui peut être joli, ce swick, swick. Mais ça peut être lassant aussi, je comprends. Moi, j'ai l'autre culture. Il y a un tout petit bout de médiator qui sort de mes doigts, donc du coup, c'est plus tranchant. Mais bon, c'est chacun son style, mais c'est vrai que ça revient un peu... Souvent, le mec dont on entend le médiator, il met un micro devant le manche. Ça va un peu ensemble, c'est des petits bruits qui y a autour de la guitare, c'est intéressant quand même.
Oui, c'est intéressant parce que ça donne de la vie, mais après, il ne faut pas que ça prenne trop le pas. Je trouve que, en plus, bon, en acoustique, Metheny, je pense notamment au disque en trio avec Aden Charlie Aden à la basse et...
Le duo, non ?
Et Billy Gins à la batterie. Oui, bon, absolument magnifique, mais... comme il utilise des cordes normales, filetées, on entend le
Ça c'est méthanique et c'est son style, hein. Il a essayé de trouver des choses au niveau du son, c'est quand même il a cherché des originalités dans les réglages de son, ne serait-ce même que de la guitare électrique, le fait de mettre la tonalité pratiquement à zéro, quoi. Ce son un peu sourd, ça crée vraiment son identité. Et ça aussi, le zwick zwick qu'on entend de la main gauche, ça fait vraiment partie de son son, donc moi, je trouve que voilà, ça me dérange pas quand c'est lui qui le fait. J'aime bien même.
Non, mais bon, là, on l'entend pas. Je trouve qu'il y a une pureté dans le... Ouais, on rentre vraiment dans les notes, dans la musique. Mmh. Hein, c'est ça.
Ouais, puis j'ai essayé aussi, moi, de demander à ce qu'il n'y ait pas trop de réverb sur la guitare.
Oui.
Pour que ça reste naturel, parce que c'est tentant, hein, la réverb sur une belle balade. Et puis que la réverb soit un peu pareil sur tous les morceaux. Parce que sur Manoir, par exemple, qui est très lent, on aurait pu changer... la reverb et mettre un truc super long qui est joli, en vrai, une belle reverb, c'est beau, mais pour en revenir, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, histoire d'avoir une trame vraiment tout au long de l'album, essayer de garder également les mêmes réglages de son sur tous les morceaux, donc pas trop de reverb, parce que quand on joue vite, sinon c'est moche, et puis voilà, essayer d'être le plus proche possible du son acoustique qu'on avait dans cette pièce.
Non, mais c'est très compliqué, je trouve, la reverb, parce que il faut, pour qu'elle... Elle est un naturel, un peu comme sur les enregistrements de Coltrane ou de Miles, où on a cette réverb avec cette église, là, comme ça. Et quand c'est une réverb numérique, maintenant, avant c'était des réverbes arsorants, donc c'était un peu...
Mais il y en a encore. Hein.
Il y en a encore.
Ouais. Ah ouais, pas mal.
Là, dans le studio, il y a une espèce de grand truc comme ça, où c'est la réverb.
Ouais, souvent même.
Le son va taper, il revient.
Incroyable. Oh,
Pas souvent, j'en ai pas vu beaucoup, moi.
Ah ouais, ah, non, à Ferber, il me semble.
Non, à Ferber, c'est une lexicon. Enfin, c'est celle que j'ai vue. Moi, j'ai vu celui de la Seine.
Ouais, les réverbes à ressort, la dernière fois que j'ai joué dans un studio, c'était pour faire une musique de film, donc c'était en post-synchrone. J'avais demandé au réalisateur de faire des boucles, donc on avait fait un peu comme ascenseur pour l'échafaud. Mmh. Enfin, bon, j'avais composé des trucs, mais on a joué comme ça. C'était une réverbe à ressort, mais vraiment le truc pourri, quoi, avec les boutons en bakélite. Bon, bref, passons. Non, mais là, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence, justement, une unité, quelque chose de... Enfin bon, moi, j'ai vraiment adoré. Donc, on continue avec Lentement, Mademoiselle. Quelques mots sur...
Tu le connaissais pas, Diego, ce morceau, je
crois. Oui.
Non, du coup.
Non, oui.
Et donc, Lentement, Mademoiselle. Moi, ça fait tellement longtemps que je le connais, ce morceau. Je sais même plus comment je l'ai découvert. Je sais qu'il y a une version de Django où, dans son chorus, il joue juste le thème du B, en fait. Il fait pas mal de phrases dans les deux premières et tout. Et sur le chorus, il fait juste le thème et c'est hyper joli. Et il rejoue le thème tous ensemble à la fin. Il a un moment où il dit, en fait, le thème se suffit à lui-même. C'est pas mal. Enfin, c'est plus que pas mal, même. C'est très beau.
Et alors, vous êtes entendu sur le choix des titres ou vous êtes un peu...
Bah oui,
ah, ça n'a pas été conflictuel. Hein.
D'accord.
Non,
ça...
Non, puis de toute façon, si on avait fait un morceau qui disait pas soit... Enfin, si on avait suggéré un morceau qui ne plaît pas à l'autre...
On le fait pas.
On le fait pas, puis c'est tout. Et si on en joue un qu'on n'arrive pas à jouer, bah on le met pas sur la
liste. Si
disque,
y en a un dont puis... on n'est pas content, bah on le met pas. Ouais,
ouais. Ouais. Non, c'est simple.
Ouais,
pas morceau. Se compliquer la vie.
Un morceau que vous n'arrivez pas à jouer, ça j'y crois pas.
Ah bah, par exemple, on n'allait pas enregistrer Rythme Futur en duo, ça aurait été inintéressant. Un morceau, tu connais le morceau de Django, Rythme Futur,
non?
C'est enfin, un truc un peu... Bah ça porte bien son nom, quoi. Voilà, il fallait quand même choisir des trucs qui sont jouables en duo, mais on en a trouvé plein.
Des mélodies, ouais. Rythme Futur, c'est assez
ouais.
Tendu.
Ouais, mais enfin...
Flèche d'or aussi.
Flèche d'or, voilà, c'est, vous l'avez fait.
C'est
hein,
moderne,
donc,
Il l'a enregistré qu'une seule fois, ça.
Ouais, ouais. Ah, oui, mais...
C'est dingue. Il y en a plein qui l'ont enregistré qu'une seule fois.
J'ai passé la dernière mission, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, j'étais vraiment... Mais ils sont...
Moi, je suis sûr qu'il a composé plein de morceaux au studio à chaque fois.
Ah, ouais,
j'en
ouais.
suis sûr.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui l'ont enregistré qu'une fois, et voilà.
On l'écoute ?
Allez.
C'est parti, Laurent. Jazz Libre Radio Libertaire. Donc, mais justement, puisque tu en parlais, des dates, oui, hormis demain.
Il y a des dates de prévues cet été en Bretagne. Nous jouerons le 15 juillet à Concarneau, au festival Jazz in Crampouheads, qui avait lieu à Nevèze et qui se délocalise à Concarneau pour une édition apparemment un petit peu plus réduite, en attendant de reprendre Racine sur un autre site, parce qu'ils ont eu des problèmes avec apparemment avec l'endroit qui les accueillait depuis longtemps.
Ça arrive.
Et puis, après c'est où?
C'est vers Vannes.
Vers Vannes, le
12 août.
12 août.
Ouais. Très jolie ville.
Oui. Là, on est content de jouer en Bretagne. Mais j'adore la Bretagne.
Ouais, oui. Ça va être chouette, ouais.
S'il fait beau, c'est génial.
Ouais, même s'il fait beau.
Il fait toujours beau en Bretagne.
Moi, j'aime bien quand il fait pas beau. Pas qu'en Bretagne, d'ailleurs. C'est vrai.
Comme il fera 40 degrés partout ailleurs, ouais. On sera mieux là-bas.
Ouais, c'est ça, il faut être dans le sud en hiver et en Bretagne l'été, quoi.
Ouais.
J'ai un copain canois qui fait ça. Quelques mots, bon, on a commencé à l'évoquer très, très clairement, mais sur le choix de l'ensemble de la playlist, c'était lié quoi, juste une...
Il y a un peu des compos de chaque époque. Par exemple, à Newman qu'on joue, c'est la dernière compo de Django. Oui. Celle d'avant qu'on a écouté, Douce Ambiance, c'est une des premières. Donc essayer d'avoir un panel assez large sur la carrière de Django.
Ouais.
Qui est un peu tout. Flèche d'or, c'est une autre époque. Voilà, Django a eu plein de périodes différentes. Pêche à la mouche aussi, c'est une autre époque. En fait, c'est pratiquement un morceau par époque. Enfin, j'exagère, mais il y a tellement eu des influences et des formations différentes que voilà, on a essayé de proposer le panel le plus large possible pour montrer le talent de compositeur de Django. Quoi.
Ah oui.
Et puis des rythmes différents aussi. Pas jouer que. Enfin voilà, il y a des balades, il y a des swing medium, boléro. Il y a même un Newman, je crois qu'on le joue en bossa. Oui. Je fais un morceau tout seul aussi. Et voilà, il y a des morceaux rapides. Voilà, c'est de trouver un truc qui soit équilibré.
Donc on va écouter une, par contre très célèbre, Manoir de mes rêves, ouais. Qui est.
Ah, ça devrait être encore plus célèbre.
Ouais.
C'est vrai.
Oui. Bon, ça finit sur nuage. C'est. C'était la.
C'est contractuel. Non, je rigole.
Non, mais on peut difficilement faire un hommage à Django sans inclure Nuage dedans.
C'est
tellement beau.
Ça me fait marrer parce que Henri Texier me disait. Un jour, je dis à Henri, tu nous fais un raga du soir espoir. Il me dit, mais ne crois pas si bien dire parce que si je le fais pas, je suis pendu haut et court. Il dit, au même titre que quand Grappelli jouait, s'il finissait pas par Nuage, il se faisait aussi. Donc j'imagine pour Django aussi, donc c'est...
Ouais, mais l'avantage c'est que c'est un super morceau, quoi.
Ah oui, oui, bah oui.
C'est un morceau magnifique. Non, mais c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, Lio, elle est obligée de faire Banana Split, elle doit en avoir marre. Là, Django, son plus grand tube, c'est un de ses plus beaux morceaux, c'est merveilleux.
Je pense que le Lio, là,
ouais, avec Banana Split... La comparaison, elle est bien.
J'ai un peu... Bon, gloops.
Non, mais ce que je veux dire par là, on nous a posé la question il y a pas longtemps aussi avec Diego... de nous demander, en gros, en caricaturant, si on se sentait un petit peu obligé de jouer Nuage. Et moi, je me suis jamais senti obligé de le jouer parce que j'ai toujours trouvé que c'était un morceau magnifique. C'est un des morceaux les plus connus de Django, je pense le plus connu, avec Minor Swing. Minor Swing, j'aime bien le jouer, mais je trouve pas que ce soit aussi beau que Nuage.
Ah, je suis d'accord.
D'ailleurs, voilà. Il figure pas sur le...
Non, mais j'aime bien le jouer, moi. Mais bon, moi, je suis pas objectif, tous les trucs de Django, j'adore. C'est vrai. Mais Nuage, voilà, un des morceaux les plus connus, c'est quand même... très riche harmoniquement,
et puis
la mélodie est magnifique, voilà, ça fait toujours plaisir.
On a été obligé de rien.
Ah non, absolument.
On a choisi entièrement libre toute la playlist, tous les morceaux qu'on voulait. Et
oui, ça c'est important.
Pour nous, c'est une évidence de mettre Nuage.
Oui, non, mais en plus, enfin, moi j'ai aucun problème.
Oui, non, mais c'est...
Soyons clairs, j'ai... Moi, je joue Footprints de One Shorter, pas parce que j'ai toujours aimé ce morceau.
Ouais,
voilà,
c'est ça.
C'est tout con, quoi.
Bien sûr, ouais.
On va pas s'énerver. je suis pas un grand compositeur, j'ai fait 2-3 trucs, mais j'aime bien jouer les standards, donc Nuages fait partie du... Enfin, puis en plus, ça fait partie du patrimoine, certainement.
Ah ouais, clairement. Oui, puis il y a vraiment de quoi s'amuser aussi pour la grille sur la grille d'improvisation.
Et dans l'hommage que j'ai fait, justement, dans la dernière mission, j'ai passé la dernière version enregistrée de Nuages qu'il a fait, je crois, avec Solal, justement,
oui,
je crois.
Tout à fait.
Qui est...
Ah bah ouais, là c'est la quintessence. Ouais.
Elle est vraiment sublime. Enfin, ah ouais. Je dis pas que c'est la meilleure, mais... Enfin,
c'est, on pourrait presque le dire.
Ah ouais, on pourrait presque le dire, hein, vraiment. Franchement.
Ah ouais, c'est... Bah, toutes les versions sont belles, mais c'est vrai que celle-là, elle respire. Ah ouais, elle est courte en plus. Toute cette session d'enregistrement, il n'y a que des morceaux courts.
Oui.
Je pense que c'était à l'époque des formats radio.
Exactement. Dit, ouais, et puis, en fait, c'était ce que je disais, c'est que... Parce que juste avant, il y avait une réédition de Maurice Vander chez Frémo. Non, pas chez Frémo, chez Jordi Pujol, qui fait des trucs géniaux. Et c'est des morceaux qui... Les plus longs, c'est 3 minutes. Et en fait, ouais, c'était des formats qui étaient sur les 45 tours.
Ouais.
Et à l'époque, 45 tours, il y avait 4 titres. Et donc...
Deux par face.
Deux par face.
Ouais.
Et après, on faisait des 25 centimètres. Et après, les 30 centimètres. Donc, ouais. C'était aussi le
ouais, c'était une contrainte aussi.
Oui, une grosse contrainte.
Ouais. Bien sûr. Ouais.
On écoute Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire avec Diego Humbert et Adrien Moignan pour Django Song qui va dont la sortie officielle est demain. Non,
demain c'est le concert.
Demain c'est le concert.
Pardon. La sortie c'était le 14 avril de mémoire.
Oh là 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 là.
Le plus important c'est demain là, le concert de sortie.
Je suis totalement.
En tout cas, le disque est sorti, il est disponible sur toutes les plateformes des voleurs. Et dans tous les magasins de musique, vous pouvez l'acheter et le garder le jour où Internet s'arrêtera.
Alors voilà, ça c'est pas bien de voler la musique des musiciens, car...
Non, quand je dis voleur, c'est une caricature.
Mais... Non, mais quand même. Non, mais c'est important. Moi, je trouve que c'est important de dire... Autant, bon, sur YouTube, on peut regarder et écouter en même temps, parce que... voilà, mais après, pomper, je trouve que c'est...
Ça se fait plus.
C'est pas gentil. On fait
plus. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par pomper?
Pomper ce disque, par exemple, et puis se le mettre acheter le disque. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, l'artiste n'est pas rémunéré.
Ouais, bien
et ça, c'est pas bien.
Très, très peu. L'artiste n'est pas rémunéré. Le producteur est très peu rémunéré. En tout cas, les producteurs indépendants sont très, très peu rémunérés. Ils ont négocié, enfin, ils n'ont pas négocié, mais les majors ont négocié un taux qui est plus important que les producteurs indépendants. Et les artistes ne sont absolument pas rémunérés.
Voilà, ça c'est dégueulasse.
Mmh. Bah ouais. Et moi, je suis nostalgique de l'époque. Tu parlais des disques où il y avait quatre. C'est vrai. Franchement, quand t'achetais un album où il y avait quatre morceaux, t'étais obligé de les saigner dans tous les sens, de tout relever, de tout imaginer. Fallait tout imaginer. C'était trop bien.
Ah bah moi qui suis.
On y reviendra, t'inquiète pas.
Je sais pas. Non, mais il y a d'autres façons d'avancer dans la musique et dans l'art bien en sûr. Général. Je dis pas, mais c'est vrai que moi, je suis un peu réticent avec l'idée d'avoir accès à tout.
Tout de suite,
même au niveau des vidéos, je parle de YouTube et compagnie.
Oui, oui, oui.
Moi, je suis jeune, hein, mais j'ai quand même connu l'époque où il n'y avait pas ça. Et je me souviens de l'excitation que ça pouvait créer de se passer une cassette, tout ça. Enfin voilà, tout le truc, le fait de ne pas avoir un accès forcément facile à tout, créer une vraie émulation qui malheureusement se perd un petit peu. Et je connais peu de gens qui écoutent les albums en entier, je connais peu de gens qui.
Voilà, qui écoute les albums, tout simplement. Maintenant, on écoute des EP, des singles. Moi, j'ai toujours écouté des disques, des vinyles d'abord, puis après, il y a les cassettes, et puis des CD. Mais quand on fait un disque, on conçoit un album dans son intégralité,
ouais,
qui dure entre 45 et 60 minutes, ou 74 minutes. Et 74, de toute façon, c'est trop long.
Mais
voilà, on conçoit le disque dans son intégralité, avec un début, on raconte une histoire. On emmène l'auditeur quelque part et on raconte une histoire sur tout le fil du disque. Et maintenant, les artistes, ils sortent un single. Voilà, il y a un morceau qui dure 4 minutes. Voilà, et puis après, on en ressort un 6 mois plus tard. Et puis, au bout de quelques années, on fait une compile. Bon, ben, moi, c'est pas comme ça que je conçois la musique, en fait.
Oui, c'est assez marrant, moi qui suis plus vieux que vous, hein, je suis l'aîné dans cette salle, où effectivement les vinyles, en plus sur les disques, il y avait souvent des textes avec des plumes, hein, Léonard Fizer, des gens comme ça, donc on se le relisait, lisait, re-relisait, on l'écoutait jusqu'à temps que le disque tombe en ruine, quasiment.
Ouais, c'est ça.
Moi j'avais à l'époque quelques potes... qui revenait des États-Unis avec 2-3 exemplaires
les
d'un
imports.
Truc,
ouais, et puis
on
sautait
dessus. Bien
sûr, ouais.
Bon, je crois qu'on a tous fait ça.
Et moi, je me rappelle même de l'époque du Gypsy Project, dans lequel, de Birelli Lagraine, dans lequel jouait Diego. On avait les dates de sortie de l'album. Le jour où ça sortait, on était à la Fnac avec les copains avec qui on joue, quoi. Et c'était l'attente, c'était l'excitation, voilà. C'est génial comme sensation.
Oui, c'est vrai. Mais par contre... Alors, bon, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais moi, je me place en tant que, à la fois, amoureux de cette musique et défenseur de cette musique. Enfin, pour moi, c'est une vision un peu militante de défendre cette musique. Mais j'ai trouvé que l'outil YouTube, pour nous, Français, de l'autre côté de l'Atlantique, de voir, par exemple, des concerts de Lykonitz, Warren March, Peter Hain, Lenny Tristano, mm-hmm. Même si la qualité vidéo est à chier, pour moi, c'est un truc... Enfin, émotionnellement, c'est un...
Oui, mais parce que toi, t'es passionné par ça. Moi, je dis que les gens qui ont accès à tout, sans être forcément passionnés, vont pas forcément se devenir passionnés avec YouTube, j'ai l'impression. Toi, t'es passionné par Lenny Tristano, ou... Voilà, donc du coup, t'as accès à ça, ça t'émerveille. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas l'accès à ces choses-là qui va créer une passion, comme moi. Enfin, je sais pas comment dire, mais... La raréfaction des choses à l'époque, moi, je pense, a vraiment contribué au fait que ce soit passionnant.
Mais. Non, mais je suis d'accord.
Mais c'est sûr que maintenant, on a accès. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on faisait des trafics de cassettes, de concerts. Ah oui, il y a machin, il y avait des listes qui circulaient, il y a tel concert, des bootlegs et tout ça. On s'échangeait ça sous le manteau, devant le New Morning, on faisait des échanges. On faisait des échanges. Il n'y avait pas d'argent, mais c'était des échanges. Ah, t'as ce concert ? Ok, moi, je vais bien t'échanger ce concert contre ce concert. On en faisait, j'en ai fait quelques-uns, et c'était fantastique. Et dès que YouTube était arrivé, maintenant, on a accès à tous les concerts. Oui. Des concerts que j'avais en cassette, ben maintenant, il y a les vidéos qui sont sur YouTube. Donc, évidemment, c'est fantastique. Mais c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas cette musique...
Oui.
Ben, il ne va pas aller voir ça, parce qu'il préfère aller voir...
De toute façon, c'est autre chose.
Mais après, avec des likes et... moi j'essaie quand même de trouver un peu d'optimisme là-dedans, en me disant que ça va peut-être forger aussi des grandes cultures musicales chez les plus jeunes.
J'espère. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est que ça peut être un outil génial d'un point de vue historique, justement, sur les choses sur lesquelles on n'a pas eu accès. Forcément. Par exemple, avoir les deux vidéos par cœur, c'est toujours émotionnel. C'est ce genre de choses.
Moi, je vois les vidéos de Django à l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'une avec le son synchro. C'était un truc, si on la voit une fois à la télé, on est marqué pendant... On ne peut pas la revoir.
Ouais.
Donc, il faut vraiment être concentré. Regardez les doigts, comment il fait. Il n'y en a qu'une. Ça dure 3 minutes. Là, il faut avoir les oreilles ouvertes, les yeux, tout. Moi, il y a des accords que j'ai appris à l'époque en allant voir les gars qui jouaient. Les accords sus4, par exemple, d'intro, qui sont très communs dans ce style de musique, moi, je les ai appris en regardant Angelo de Bar. Et en rentrant, j'ai fermé les yeux en me disant, faut pas que j'oublie la position. C'est vrai. Moi, je trouve ça trop bien d'apprendre comme ça.
Ah oui, alors que maintenant, vraiment. Avec tout le monde filme.
Ouais, et du coup, ça.
C'est, non, mais je suis d'accord.
Ça fait autre chose, voilà.
Je me plaçais plus sur un aspect historique, enfin historien,
ouais, je comprends,
la musique, parce que bon, je suis un peu maniaco obsessionnel sur le dossier.
D'accord.
On va écouter Flèche d'or parce que.
La retourne.
Voilà. Alors Flèche d'or en acoustique, il fallait le faire quand même. Hein. Gros défi.
Ouais, mais je l'avais joué plein de fois avant en acoustique déjà, dans un autre groupe. Donc en fait.
En acoustique.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Donc en fait, ça, c'est loin de l'original où Django est à la guitare électrique bien forte avec grand orchestre et tout. Mais encore une fois, on se rend compte que voilà, les compositions de Django en fait sont un peu universelles. On peut les jouer dans plein de formules différentes, Et puis même pas forcément la guitare. Hein. Il pourrait très bien y avoir un hommage à Django en duo, contrebasse, piano. Ou même un trio, enfin tout, en fait. Toutes les formules marchent parce que les morceaux sont tellement efficaces que...
Magnifique,
efficace, voilà.
Juste un mot sur Flèche d'or, c'est le train, hein. Tsou-tsou.
Je sais pas.
Si.
Ah ouais ? D'accord.
Si. C'est le... Alors, bon, c'est pas une évocation de Pacifique 231 d'Arthur Honegger, mais c'est le train, c'était le train du Nord.
D'accord, ok, je savais pas.
D'or.
Ah, ok.
Voilà.
Pour aller où ?
Bruxelles.
Bruxelles ou non, juste la France ?
Ouais, juste en France.
D'accord,
je pense,
ouais. Ok.
Voilà, c'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Voilà, ils sont en train de ils sont en train de réviser.
On est en train de répéter.
Le scoop, ils sont en train de réviser. Très belle harmonique à la fin. C'est pour ça que j'ai eu un doute à un moment donné, parce que ça sonne presque métallique.
Ouais, ça, c'est les harmoniques naturelles de la guitare. En fait, là, c'est en si mineur. Donc, si je vais à la septième case et que j'effleure les cordes, ça fait un accord de si mineur, en fait. Et à la douzième, un accord de mi mineur. Donc, ça s'y prête bien. J'aurais fait ça dans une autre tonalité, ça aurait été affreux.
Certes. Alors, aussi, hormis le timing des morceaux n'est pas très long. C'est un choix délibéré aussi, ou c'est venu comme ça
en... Franchement, on ne s'est pas dit que ça...
On n'a aucune...
Non.
Aucune contrainte.
On est démasqué. Non, pas du tout. Par contre, je pense qu'en live, oui, il va y avoir des versions plus longues. Enfin, c'est même sûr. On va prendre le temps de développer d'autres choses et de s'amuser encore plus. Mais normalement, en studio, instinctivement, ça s'est fait comme ça. Bon, on s'est un peu mis d'accord avant chaque morceau. Est-ce que tu fais un chorus? On fait un demi. Voilà, ouais.
Après, en live, il y aura des...
L'interaction, tout ça. Ouais. Non, on ne s'est pas dit spécialement qu'il fallait que les morceaux soient courts, pour répondre à ta question.
Mais, bon, en même temps, ça donne, comment dire, de la variété. Enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on va dire.
Bah, surtout qu'on est que tous les deux, donc c'est vrai que si les morceaux font tous 10 minutes...
Ouais, ça... Pourquoi pas.
Bah, là, ça s'est pas présenté.
Moi, je suis un grand musicophage, enfin, j'aime bien... Bon, même par exemple quand Coltrane y va pendant 20 minutes, je suis content.
Ouais, mais c'est Coltrane.
Ouais, mais même.
Mais moi aussi, je suis d'accord, j'aime bien. Quand ça va. Ça... Il y a pas longtemps, là, j'ai joué avec. Il y a quelques jours avec un guitariste, Antoine Boyer.
Oui.
En duo, on a fait un concert. Et...
Le jeune, là.
Ouais. Et il m'a regardé, il m'a dit on fait une impro totale. J'ai dit ok, ça marche. Et on a fait une impro totale très lente au début. Et ça, je pense, ça a duré un bon quart d'heure, ouais, peut-être un peu plus. Et on est vraiment rentré dans le truc. Mais c'était du live, encore une fois. Ça s'y prête bien, quand même, avec les gens, avec l'ambiance, avec tout ça, l'émulation du moment. Mais oui, moi, j'ai rien contre le fait de faire des trucs longs et déstructurés.
Mais oui.
Ah ouais, bien sûr.
En plus, on est Radio Libertaire, donc.
Déstructurons.
Mais oui, c'est. Moi, depuis 12 ans maintenant qu'on a cette émission, je reçois évidemment beaucoup, beaucoup de musique. Mais moi, je me suis contraint, c'est un peu con, hein, mais d'acheter que du live, parce que j'aime les enregistrements live, quels qu'ils soient, même si c'est mal enregistré, parce que je trouve qu'il y a une...
Il y a l'énergie. Pour revenir à Django, il y a quelques enregistrements de Django avec Duke Ellington. Et tu parlais tout à l'heure des formats qui étaient un peu contraints par rapport aux gravures sur CD. Mmh. On se rend compte, quand on écoute le peu de morceaux qu'il y a en live, que Django, il prenait des chorus très très longs en concert. Il y a un blues notamment avec Duke Ellington qui est incroyable, où il prend un chorus de 5 minutes, quoi. Et donc, oui, à cette époque-là, déjà, il s'éclatait sur des blues pendant des heures. Enfin, peut-être pas des heures, mais... Et Django était partisan de ça à 100%. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de vidéos et notamment de concerts entiers. Même à l'époque du quintet, je suis sûr que les versions étaient beaucoup plus longues.
Ouais, mais j'en suis certain parce que il y a eu deux gros coffrets qui sont sortis du pianiste Joe Castro, je ne sais pas si vous connaissez.
De nom.
Qui était qui a pas fait carrière parce qu'il s'est marié avec une milliardaire, donc il n'a pas eu besoin de bosser.
D'accord.
Mais il a fait chez lui un studio d'enregistrement et il a invité tous ses potes de l'époque, c'était Alcon, Zoot Sims, enfin bon, tous les mecs de la West Coast. Et il y a des enregistrements, c'est une heure d'impro complète, où les mecs sont là, waouh. En plus, il y a le piano qui va bien, la console, tout. Et donc les mecs jouent tout le temps, n'arrêtent pas. Et c'est hallucinant, quoi. C'est un peu comme justement les
impro. Hein? Un vrai laboratoire.
Ah, oui, exactement. On voit vraiment la créativité. On rentre un peu presque dans la cuisine de ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est super intéressant. Un peu comme les impros de Tristano avec Konitz, Billy Bauer,
ouais,
truc de datait de 49. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit waouh.
C'est pas ça.
C'est quoi ça? 49.
Ah, ouais.
Les mecs, bon, bah, en fin de compte, on n'a pas eu accès à ça vraiment. Donc je trouve ça intéressant. C'est pour ça que le live, moi, y a une énergie.
Ah ouais, bien sûr, c'est sûr.
Donc faites un live, les gars.
Ok. Ben venez demain.
Ouais. Oui, bien sûr. Je viendrai avec mon agra enregistrer un truc pirate. non, je déconne. Diminishing.
Tu peux.
Un mot sur Diminishing?
Yes.
Morceau encore contemporain, avec des accords un peu bizarres. Mmh.
Très moderne.
En do, avec un pont en fa dièse. Fallait oser. Mmh. Et... ouais, il y a plusieurs versions.
C'est la charte augmentée.
Ouais, mais
c'est l'intervalle du diable. Hein.
Ouais.
Ben oui, Diabolicu.
Diabolus in Musica.
Oui, exactement.
Et il y a plusieurs versions. Django, il a fait plusieurs versions de ça. Il y en a une électrique, notamment, qui n'est pas très connue. Et il y en a une très lente avec Rapelli. Où il joue ça vraiment lentement. Et c'est vraiment difficile de jouer ce morceau très lentement.
Et ben on va l'écouter. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Lib, donc ça se termine sur un mi.
À la basse.
Non,
à
mais
la
basse.
Ou les udos.
Ce qui est étonnant dans cette composition, c'est la rupture, en fait. Elle date de quand, cette composition?
Ah, ça, je sais pas. Mais c'est vieux, hein. Ça doit être 40, je pense.
Ouais, donc c'est...
C'est très moderne. Dans le choix des accords, dans la construction mélodique et harmonique, c'est très moderne.
Et puis cette rupture, comme ça, ce silence...
Ouais.
C'est pas habituel.
Non, c'est pas très habituel, ouais, c'est vrai.
Ah,
ouais, elle est super.
Ça change complètement de... Et il y a plein de climats différents.
Ouais, c'est tendu sur les A, et après quand on passe au B, c'est guiré, c'est marrant, ouais.
Ah, il faut expliquer aux nos auditeurs qui sont pas musiciens ce qu'est le A et le B.
Bah c'est... Diego va vous expliquer.
Bah la première partie, c'est le A, et la deuxième partie, c'est le B.
Ouais, c'est ça.
Donc au début...
C'est un peu comme un refrain ou un pont quand on...
Refrain couplet. Chanson,
ouais. Voilà.
Refrain couplet. Donc c'est comme s'il y avait deux refrains et un couplet. Donc au départ, c'est un petit peu tendu, et quand arrive le couplet, ça se relâche.
Ouais.
Et c'est un petit peu plus détendu et gai.
Le principe même du jazz, tension détente.
De toutes les musiques. Intéressante. Non, parce qu'il paraît qu'il y a des robots qui font de la musique, qui sont écoutés par des robots.
Ouais, j'ai vu ça aussi.
Et qui génèrent des droits tout seuls.
Ah non, c'est hallucinant.
Qui vont aller à des robots, qui vont s'enrichir. Enfin, c'est...
Non, mais c'est devenu un truc de fou. J'ai,
ouais.
Non, mais justement, je fais une parenthèse parce que j'ai un pote qui m'a envoyé un truc qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire qu'il a enregistré la voix d'André Manoukian, qui parlait comme ça. Ouais. Donc il a enregistré la voix d'André Manoukian et il lui a fait chanter un truc de Adèle.
Et ça marche?
C'est hallucinant parce que c'est juste de l'IA qui génère le truc. Donc c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment savoir qui fait quoi?
Bah, faut aller au concert.
C'est pour ça.
Et surtout, qui garde les droits? À qui vont les droits?
Ouais, mais ça, c'est financier.
De toute façon, c'est que pour le pognon.
Le problème, c'est artistique. C'est qu'en fait, Manoukian, il va pouvoir sortir un disque.
André Manoukian chante
Pavarotti.
C'était juste une.
Oui, je sais bien.
Pour me dire, attention.
Mais ça a marché.
C'est en train de devenir du délire. Quoi.
J'avais compris. Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi. C'est pour ça que nous, ici, d'une manière générale dans la radio, parce que je ne suis pas la seule émission musicale, il y a plein de genres représentés, on défend la musique vivante. C'est vraiment important pour nous,
bien
et
sûr.
C'est pour ça que je fais venir les musiciens dès que je peux, pour qu'ils défendent, qu'ils nous expliquent leur processus créatif, savoir comment ça fonctionne, et puis qu'ils aillent écouter les musiciens avant. Parce que c'est bien les hommages posthumes, mais c'est mieux de les écouter en vrai, quoi, pendant qu'ils sont là.
L'expérience d'un concert, quand on voit les musiciens, on les écoute, on est en direct, il se passe quelque chose qu'on ne peut pas reproduire ailleurs.
Tant mieux.
Et tant mieux.
Sinon, ce serait déjà à créer. Ah ouais, non. Les émotions, heureusement, on n'arrive pas trop à les...
Moi, je peux encore expliquer avec les poils à la verticale les concerts de Mingus que j'ai eus quand j'étais jeune. Quoi. Ou Roland Kirk. Avoir vu Roland Kirk sur scène, c'est un truc hallucinant. Bill Evans, enfin bon, voilà.
Ouais, mais ça existe encore. Il y a encore des moyens d'être très, très marqué par les concerts.
Absolument.
Ouais.
Non, mais
c'est pour ça qu'il faut y aller.
Absolument. Donc venez demain. Alors on écoute la pêche à la mouche.
Ouais.
Bon, là, c'est un truc pareil, très connu.
Ah, pas tant que ça. Pêche à la mouche? Non, parce que c'est connu parce que c'était le nom d'un coffret de morceaux de Django. Pêche à la mouche, c'est pour ça que c'est connu. Mais le morceau en soi n'est pas très connu.
Bon, on va l'écouter.
Ça a l'air surpris.
Tout simplement. Mais est-ce qu'il lui-même pêchait à la mouche?
Ouais, un peu, je pense.
Ou juste
c'est plus un fantasme, pêcher. Ouais.
Normal, parce que pêcher à la mouche, c'est
c'était
spécial.
Plus joli comme titre que pêche à la ligne.
Ouais. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz Libre Radio Liberté 89.4. C'est un peu une discussion de vieux schnock, mais bon. Donc on était en train d'évoquer les dangers de l'intelligence, comment on peut dire, intelligence artificielle. Ça, rien que le terme, je trouve que c'est un blasphème.
Mais c'est artificiel quand même, donc.
Oui, mais intelligence, c'est...
Non, mais artificiel.
Il n'y a pas d'intelligence dans ce truc-là. C'est juste des algorithmes. Mais gravissime quand même. Hein. Enfin, pour les artistes, d'une manière générale. En fait, Diego, pour expliquer aux auditeurs, nous montrait une évocation d'un sujet à la manière de... C'était une peinture à la manière de Basquiat, à la manière de Picasso. Et l'intelligence artificielle le générait, quoi. Ça fait peur.
Ouais, c'est sûr, c'est angoissant. Mais bon.
Troublant Boléro.
Ouais.
Qui s'y colle. Guitare solo, c'est lui qui...
Ouais, je le joue en solo, ça. Je joue même pas en Boléro, en fait. Sur le disque.
Ah bah alors.
Bah non, tu allais changer un petit peu la formule.
Viré.
très belle, encore une fois, magnifique composition de Django. Là, c'est fou. Très beau, qui porte très bien son nom. Très intéressant pour improviser. La grille d'accord est vraiment super. Tout est génial. Donc voilà, je l'ai fait en solo. Je sais même plus comment ça s'est. Je l'ai fait comme ça, je crois. Allez, on essaye 3-4. Et puis
c'est la première prise.
Ouais, je sais plus.
Oui. Formidable. Oui. Donc t'étais parti boire un coup pendant
ça. Non, j'étais derrière. Ouais. En disant mais pourquoi il n'y a pas de basse.
Excellent.
Non, j'écoutais. Il m'a transporté sur toute la prise.
Ah ça c'est génial quand son compère arrive à enfin, qu'on arrive à se sortir de son propre truc, quoi.
Ah, c'est pour ça qu'on fait du jazz, hein, pour se surprendre.
Exactement. Allez, c'est parti, Laurent. Radio Liberté, ben il nous reste 5 minutes. Donc je voudrais vous remercier. On va écouter Nuages à la fin parce que, quand même, on ne va pas pouvoir faire autrement. Le temps est passé vite. Je suis désolé. Vous êtes évidemment. Vous revenez quand vous voulez.
C'est gentil, merci beaucoup.
N'hésitez pas. Donc on rappelle demain au concert au Sunset.
Oui, 20h30.
N'hésitez pas. Merci encore.
Merci à toi, merci à vous.
Merci à toute l'équipe de Radio Libertaire et à toi Yves.
Et Laurent. Ben, voilà, on essaye de tenir le pont dès qu'on peut. Donc on finit par Nuages, que dire sur ce thème, si ce n'est que c'est...
Enfin, franchement, c'est une merveille.
Je voulais aller plus loin sur le fait de savoir si Django avait conscience qu'il avait pu influencer autant de guitaristes.
Non,
mais...
je pense pas. À l'époque, non. Même à Samoa, moi j'habite à côté de Samoa, juste à côté. Les gens me racontent que Django, c'était pas une star en fait à l'époque à Samoa. Les gens le respectaient beaucoup, bien sûr. Il avait une petite vie tranquille. Je pense qu'il se rendait pas compte de l'impact qu'il aurait sur les musiciens, pas que les guitaristes.
La musique en général.
Eh bien, rendez-vous dans 15 jours pour une rediffusion. C'est parti Laurent pour un petit bout de nuage et après on cède la place à Epsilonia. Bye bye, soyez fort Fraternity Swing et à bientôt. Thank you.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire 89.4. C'est Epsilonia. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia.